Les podcasts d'Opost sont en libre accès et ceci grâce à vos dons. Soutenez la riposte sur opost.fr.
8-9-10, 8-9-10, 3-4, 3-4, amis de la limonade, amis du café, amis de la justice, cette justice incroyable qui nous a encore réservé un truc de dingue, extrêmement ramasse spécial avec le plus grand des observateurs, des historiens de l'extrême droite, celui qui refuse pratiquement toutes les propositions, les invitations ailleurs, sauf aujourd'hui ou demain dans La Croix. J'ai nommé monsieur Lebourg Nicolas. Alors monsieur Lebourg Nicolas, bonjour monsieur. Oh la vache, il te reste 34 il te reste qu'est-ce que t'es beau. Alors monsieur l'historien, bonjour, comment vas-tu mon cher Nicolas?
Bonjour mon cher David, très bien.
Très bien. Alors écoute, tu m'avais envoyé un petit email il y a 3 heures me disant je parie une bière qu'elle ira et que Bardella va filer droit. Tu as gagné ta bière, elle y va et on sait pas encore, mais enfin a priori Bardella va y aller. On va passer 3 quarts d'heure ensemble, le temps que ton téléphone s'épuise, alors que nous admirons les ouvrages derrière toi. Je rappelle que tu es donc historien du Rassemblement National, du Front National. On te doit quantité de livres et notamment cette Bible extraordinaire que je suis en train de relire sur Monsieur Duprat François, celui qui avait inventé le Front National. Tu as également publié récemment un livre dont on parlera tout à l'heure avec les copains de Street Press. Aujourd'hui, la Cour d'appel de Paris a statué dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National, devenu RN, car rappelons que cette histoire a démarré sous les couleurs du Front National, portant sur le paiement entre 2004 et 2016 des salariés du parti avec l'argent du Parlement européen pour un montant détourné de plus de 4,4 millions d'euros. Marine Le Pen est accusée d'avoir prolongé un système mis en place par son père, Le Pen Jean-Marie, fondateur du FN. Elle est reconnue coupable donc de détournement de fonds publics, de complicité de détournement de fonds. Attends, on me demande de couper la musique. Je coupe la musique. Elle est donc condamnée à 3 ans de prison, dont 1 an sous bracelet électronique, à 15 mois ferme d'inéligibilité. Et la Cour d'appel a pris en compte la liberté de candidature et la liberté de choix des électeurs en la condamnant à 15 mois d'inéligibilité avec une partie de la peine de prison aménageable. Ces 15 mois sont terminés. Donc, elle a annoncé tout à l'heure chez ton ami Gilles Boulot de ton TF1 adoré qu'elle était candidate. Monsieur Lebourg Nicolas, première réaction.
Alors, primo, outre bonjour à tout le monde, te dire qu'à propos de François Duprat, j'ai reçu aujourd'hui même de nouvelles dérogations, donc il y aura de nouvelles publications sur François Duprat d'ici peu, le temps qu'on me laisse le temps de travailler les archives et d'écrire. Écoute, j'écoutais Marine Le Pen comme toi tout à l'heure, et sans doute comme pas mal de gens, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. D'abord parce que par rapport au petit mail que je t'avais envoyé, je trouve qu'elle a très bien géré la question du raccrochage de Jordan Bardella. Elle l'a raccroché, certes, en disant du bien, certes, en parlant de couple politique, mais par-delà, toi-même et beaucoup de gens avaient noté ces dernières semaines la façon dont Jordan Bardella était en train de construire une propre identité politique, plus libérale identitaire que celle de Marine Le Pen. Et elle nous a parlé de quoi? Elle nous a parlé de Gulliver. La France, c'est Gulliver, tenu par des cordes. Et il faut, elle nous a-t-elle dit, avec Jordan, couper toutes ces petites cordes pour libérer le géant qu'est la France. C'est un discours qui est un discours de plutôt de droite libérale, ça, voire même du centre libéral, mais en tous les cas, un discours libéral, ce n'est pas du tout un discours mariniste avec ses écluses économiques, avec son protectionnisme intelligent tel qu'elle a répété durant des années. Et puis même tout son discours, beaucoup de gens pariaient, mine de rien, on disait, est-ce qu'elle va faire du trumpisme, se victimiser, parler de complot? Pas du tout, il n'y a pas eu de victimisation. La victimisation, c'est une stratégie interne. Ça sert à consolider ses militants, ça sert à consolider son bloc. La normalisation, c'est une stratégie externe. Et là, elle était clairement dans la normalisation, pas dans la victimisation. Le bloc, il a son opinion, ça va très bien. Elle parlait aux autres. Et ça aussi, c'était quand même quelque chose de marquant. Avec cette façon de vouloir parler à l'extérieur, on a entendu Marine Le Pen parler de droit pénal, aller vraiment sur quelque chose d'assez technique qui fasse très très normalisation, justement très banalisation. Tout ça est un problème. Elle a cité les articles du code, etc. Elle essaie bien de dire que c'est un petit problème juridique. Et puis, on a même eu ce bonheur, et je pense que ça t'a parlé autant qu'à moi, on a entendu Marine Le Pen défendre l'importance du principe de l'état de droit.
De l'état de droit, mais bien sûr.
Très à gauche de Bruno Retailleau, manifestement. Donc ça, c'était quand même un vrai plaisir d'entendre Marine Le Pen défendre le principe de l'état de droit.
En disant que c'est pas parce que deux juridictions s'étaient trompées que la troisième ne se tromperait pas. Alors effectivement, le chat me rappelle à l'ordre, mais parce que ça me paraissait évident. Elle annonce effectivement qu'elle va se pourvoir en cassation. On va discuter. Il y a déjà débat chez les juristes. D'ailleurs, Gilles Boulot a essayé de lui en parler. Alors toi, tu dis bon. Il n'y a pas eu le grand complot. Ça a quand même été le grand complot, et d'une certaine manière, elle s'en sort avec le petit complot en disant « ce n'est pas au juge de me juger, c'est au peuple ».
Oui, elle est dans un discours qui est vraiment dans la fibre du ce qu'on appelle le national-populiste, qui est donc le courant auquel elle se rattache, qui est un courant qui naît dans la France de la fin du 19e siècle, dans les années 1880, avec cet appel toujours au peuple, le peuple qui doit trancher, ce peuple auquel justement on est légitime à diriger la France parce qu'on a ce lien profond avec le peuple. Donc elle s'est mise complètement là-dedans. Ça, c'est tout à fait certain. Pour ce que tu dis, alors Dieu sait que c'est pas moi. Moi, je suis historien et politiste. Ça occupe mes journées. Je suis pas juriste. Pour ceux qui auraient eu du mal à suivre la conversation entre Monsieur Boulot et Madame Le Pen et qui auraient pas lu là-dessus avant parce qu'ils ont autre chose à faire que de s'intéresser au Front National tout le temps, au Rassemblement National. En fait, la question, c'est de savoir, il n'y a pas eu d'exécution provisoire dans la décision aujourd'hui.
C'est ça.
Ça n'a pas été requis. Donc, la question, c'est de savoir si le pourvoi va tout suspendre, bracelet compris, le temps que la Cour de cassation statue. Et c'est là où il y avait débat, où il y a un débat entre juristes, où M. Boulot portait la voix de ceux qui disent « mais non, en fait, en portant l'affaire en cassation, vous repartez sur la première peine », et le point de vue d'autres juristes que reprenait Mme Le Pen, bien évidemment, qui était à son avantage et qui lui permettait de se débarrasser de tout. Et j'aurais pas la prétention de le trancher.
Voilà. Alors, dans l'après-midi, Le Monde avait publié un schéma, un croquis qui est toujours valable avec cette petite discussion. Donc, elle a décidé de se pourvoir en cassation. D'ailleurs, le parquet lui-même s'est donné une semaine pour le faire. Le 17 juillet, donc dans 10 jours, c'est la fin du délai pour le pourvoi en cassation, a priori, il sera bon. Et alors là, effectivement, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a un débat. Est-ce que les peines sont suspendues? C'est ce qu'elle nous a dit, Le Pen, Marine. Toi, tu t'appelles Madame Le Pen. Moi j'appelle fille deux. Hein. Bon, voilà, chacun son truc. Hein. Monsieur est historien, respect des sources, tout ça. Donc, les peines sont suspendues jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation. Ça, c'est a priori le droit communément accepté. Mais d'autres disent non, pas du tout. C'est ce que tu viens de dire et c'est ce que Gilles Boulot a essayé de dire. Disant, non, attendez, vous allez peut-être vous retrouver avec votre bracelet, puisque l'idée... Non seulement du bracelet, c'est pas une question d'honneur, c'est simplement une question de pouvoir aller et venir à sa guise pour aller de tel meeting en telle émission de télé ou de radio. Mais alors là où c'est intéressant dans le schéma, c'est que la Cour de cassation, qui a déjà d'ores et déjà dit qu'elle serait rapide, pourrait donner son arrêt début 2027. Et alors là, c'est là que ça score, c'est-à-dire que si la Cour de cassation qui juge effectivement, comme le rappelle le chat, la forme et pas le fond. Si la Cour de cassation confirme l'appel, alors là, Bardella, il a plus que 3 mois pour sa campagne.
Alors, en même temps, elle a bien expliqué que chacun était à sa place et que la place naturelle de candidat à la présidentielle, c'était elle. Elle a même annoncé, alors je ne sais pas si tu as joué comme moi, elle a annoncé que dès ce soir, son site de campagne était en ligne. Alors, je ne sais pas toi, mais moi, mon réflexe, je me dis, bon, bah, je vais voir, qu'est-ce qu'il y a de beau dedans, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle propose, qu'est-ce qu'elle a voulu angler. Si tu y vas, tu risques d'être un petit peu déçu, puisqu'il y a une photo de Marine Le Pen, il y a marqué « Pour la France, La Renaissance. Alors, La Renaissance, ça fera plaisir à mon bon vieux maître Roger Greffin, professeur de l'Université d'Oxford, qui disait que le cœur idéologique de la question du fascisme, c'était la panagénésie, donc la question de la Renaissance, hein, c'est du grec, de la Renaissance, et on voit bien que c'est une question... petit désaccord avec mon bon vieux maître qui traverse toutes les extrêmes droites, pas juste le fascisme. Donc là, mais t'as juste cette page de titre. C'est juste une page de titre que t'annonces aux 20h, ça fait quand même pas super bosser d'avance, quoi.
Voilà. Alors là, je montre la page qui a du mal à se charger. Effectivement, il y a une petite vidéo derrière. Moi, je note, mais parce que
tu peux pas naviguer dedans, t'as pas de proposition programmatique, c'est vraiment juste une manière d'acter qu'elle est candidate, quoi.
Voilà.
Je crois que c'est la première fois qu'on annonce une page avec 6 mots à un JT de 20h de TF1. Hein, normalement, il y a quand même un peu plus de contenu. Donc, il y a quand même quelque chose où on voit bien, ça signifie à la fois son désir, qui est totalement intelligible. Elle a connu le Front National dans les eaux les plus basses. Par définition, si j'ose dire, elle a même connu à l'état groupusculaire enfantin. Elle l'a connu dans les phases difficiles à l'époque où Nicolas Sarkozy était président de la République et on lui promet que le prochain président de la République sera Rassemblement National. On comprend humainement qu'elle a envie d'y aller. Mais c'est vrai que cette page, elle est significative d'un désir qui ne repose peut-être pas sur beaucoup de stratégie, la fameuse professionnalisation du Rassemblement National, elle est quand même toujours quelque chose 100 fois remis sur le métier.
Sur l'histoire du Front National, du Rassemblement National, est-ce que ce qui est en train de se passer, on peut le raccrocher à quelque chose ou est-ce que là, il y a une rupture? Alors, par exemple, la relation à la décision de justice. Parce que là, quand même, elle défie totalement la loi, quoi. Elle brave la loi.
Alors, son discours, non. C'est je m'y soumets et j'utilise justement tous les éléments de l'état de droit. Son discours, là-dessus, il fait attention. Il y a, dans les sondages, si tu regardes, alors autant sa base militante est totalement avec elle dans cette affaire, mais même comme ça a baissé. Parce que l'année dernière, lors de la première décision, il y avait, je dis les chiffres de tête, hein, 90% à la louche, des sondés qui se réclamaient du Rassemblement National, qui disaient c'est un procès politique. Ils sont plus que 80%, ça a perdu une dizaine de points. Mais par contre, très clairement, chez l'ensemble des sondés, il y a 59% de mémoire des sondés qui te disent « Marine Le Pen, c'est injusticiable. Comme les autres, c'est pas un procès politique, elle doit faire avec. » On revient quand même au fond républicain des Français, souvent, quoi qu'on puisse des fois en avoir des doutes, je sais, dans les débats publics, ce fond républicain sur l'idée de l'égalité devant la loi, de l'égalité de traitement, qui est un des legs de la Révolution française et un de ses moteurs. Alors ça, c'est effectivement clair, elle est bien obligée de faire avec. Maintenant, la rupture, je veux dire, il y a eu d'autres affaires.
Oui, bien sûr.
Rassemblement National. Il y a eu l'affaire du procès du micro-parti Jeanne, il y a eu les affaires avec la Cotelec, il y a eu les affaires avec Riwall, une des entreprises prestatrices du FNRN, tenue par ce qu'on appelle la Good Connection. Des affaires, il y en a eu quand même un certain nombre depuis quelques années, et du côté effectivement de la base, ça ne pose pas de trouble. Peut-être que Marine Le Pen, quand justement elle a fait beaucoup de bruit, qu'elle avait voulu faire cette scène un petit peu ridicule, ce meeting un petit peu ridicule après sa condamnation, je dis un peu ridicule parce qu'il y avait quasiment personne.
Ah oui, sur la place du Trocadéro, enfin à Paris là, c'est ça? Non, pas du Trocadéro, ouais, mais ouais, où il y avait personne. Oui, c'est ça.
Et la scène était un petit peu ridicule, et peut-être que justement, à un moment où toute la stratégie du parti est d'aller parler aux secteurs qui l'ont jusque-là le plus boudé pendant des années, parce qu'ils étaient plus attachés à la droite, par exemple les retraités, par exemple les CSP+, et s'est peut-être effectivement rendu compte que ce genre de guignolade était plutôt contre-productive. Donc, elle fait comme sur son offre politique, je veux dire, elle se soumet à la demande. Et c'est sa stratégie, en fait, depuis longtemps, c'est sa stratégie, depuis la présidentielle de 2017, de revenir à la demande. Et au niveau du discours, moi, je trouvais qu'elle était dans la normalisation. Ça, c'est la stratégie qu'elle a, mais depuis 2002, Marine Le Pen. Depuis 2002, quand il s'agit pour elle de faire son petit espace à côté de son père, à l'époque, bien évidemment, elle est dans cette question d'aller chercher, de pas gérer par le scandale. C'est pas une communication du scandale, elle fait pas le bruit, la fureur, les cris tels qu'aurait pu le faire avec un verbe très radical son père. Elle est effectivement allée chercher des articles de droit, elle est dans une technique de communication qui cherche déjà à aller parler aux autres segments dont elle aura besoin à la présidentielle.
Oui, mais
je trouve qu'elle a pas été mauvaise, tu vois. Elle a su allier sa base et les zones, les autres zones.
Et d'ailleurs, c'était assez malin parce qu'elle s'est rappelé sans doute ses études de droit et puisqu'elle avait été avocate, hein, je rappelle que même elle fut avocate de sans-papiers, hein, pour faire chier son père, hein, c'est quand même, il y a eu ça dans l'histoire des Le Pen. Évidemment, son aplomb juridique faisait un peu chanceler évidemment Boulot et nous-mêmes, en tout cas moi-même, je me suis trompé puisque Algadan nous dit dans le chat, David, c'est pire que ça. Marine Le Pen dit que pour ce qui est du bracelet, elle n'en aura pas car la cassation est suspensive, mais elle dit aussi qu'elle a purgé sa peine d'inéligibilité, ce qui n'est vrai que si la cassation n'est pas suspensive, elle pioche donc la suspension ou non suspension selon ce qui l'arrange. Et ce que je veux dire par là, c'est que dès qu'on commence à sortir des articles de droit, de trucs de machin, ça fait très sérieux et la beauté du droit, c'est qu'en réalité, il y a la loi et l'esprit de la loi. Et là, visiblement, les juges se sont bien amusé cet après-midi, mais d'un point de vue politiste qu'historien cette fois-ci, finalement, est-ce que ce qui se passe là, c'est pas presque le pire pour eux deux, Bardella et Le Pen? C'est-à-dire que ils sont quand même, sans mauvais jeu de mots, ou allons-y, suspendu à une autre décision de justice qui va arriver plus tard. Elle va quand même traîner ça pendant des mois et des mois. Je rappelle quand même qu'elle est condamnée alors qu'il est avec des termes, enfin voilà, de détournement de fonds publics. Enfin voilà. Est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi une difficulté pour eux?
Alors il y a deux choses. Tu as raison, Primo. Je pense c'est pas soldé. On va continuer à lui en parler pendant des mois et on va continuer bien évidemment à enquiquiner tous les cadres et élus du Rassemblement National en leur posant des questions sur mais et si la Cour de cassation. Ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils n'ont pas su gérer dans le temps médiatique depuis les municipales avec cet appel, effectivement, la stratégie qu'ils choisissent et qu'elle a choisie les remet un peu dans cette situation. Elle essaye de passer l'accélérateur en se présentant comme candidate, donc en sortant ce site pour l'instant, il n'y a rien à faire, mais c'est une situation. D'un autre côté, du côté de Jordan Bardella, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal parce que c'est bien certain que tout le monde avait un petit peu envie. C'est-à-dire que Jordan Bardella, il avait peut-être très envie d'être candidat à la présidentielle du haut de ses 30 ans, mais il faut quand même être honnête, la totalité des autres hommes et femmes politiques avaient envie que Jordan Bardella soit candidat aussi en se disant « il va être beaucoup plus facile à démonter, il est beaucoup plus friable, il a beaucoup moins d'assises, il s'est moins improvisé, il n'a pas construit ». C'est un type qui est élu sur des scrutins de liste au Parlement européen. C'est pas un rapport direct avec le peuple français tel que Marine Le Pen a pu avoir déjà durant trois présidentielles et où sa famille a construit ce lien. Bref, tout le monde avait un petit peu envie chez les gens qui aiment pas beaucoup le Rassemblement National ou qui en tout cas sont en concurrence avec lui que ce soit plutôt Bardella. Lui, ça le protège. S'il est malin, ça le protège plutôt. Franchement, il a plus intérêt à revenir dans 5 ans, soit en ayant été Premier ministre, soit en tous les cas en ayant dit j'ai été fidèle à la patronne jusqu'au bout de sa 4e candidature. Que de se cramer à 30 ans. Ça, je le pense assez. Qui fait que la situation pour Jordan Bardella, moi, je pense, s'il est rationnel, je pense qu'elle est plutôt bonne. Après, les hommes politiques ne sont pas toujours rationnels.
Et donc, pour nous, qui n'aimons pas ce parti, c'est une mauvaise nouvelle. Il eût été préférable que ce soit Bardella. Ou pas?
Moi, je vais te dire, je vais être optimiste et positif. C'est une bonne nouvelle parce que, mine de rien, la décision des juges est extrêmement conforme justement à l'état de droit et que tellement conforme qu'effectivement, même le Rassemblement National ne peut pas la critiquer, ne peut pas la balayer en disant « vous voyez bien qu'il y a un vaste complot politico-médiatico-judiciaire, etc. contre nous ». Il y a eu des attaques Je faisais tout à l'heure référence à Bruno Retailleau quand il était ministre de l'Intérieur, encore attaquant le principe même de l'état de droit. On sort d'une année extrêmement délicate en la matière. Entendre la favorite des sondages, championne de l'extrême droite, rendre hommage à l'état de droit, je prends, j'achète. C'est un point à marquer. Donc ça, pour une fois, tu sais, toujours pareil, on passe notre vie à se plaindre de comment l'extrême droite gagne la bataille culturelle, comment l'extrême droite gagne ceci, l'extrême droite gagne cela, quand c'est elle qui doit reconnaître l'état de droit et que cet état de droit n'est pas critiquable dans la décision qui est prise, ça aussi, c'est un effet, et c'est un effet à long terme. Donc, il y a des choses positives pour tout le monde.
Mais tu penses... Tu parlais tout à l'heure de normalisation. Est-ce qu'on peut pousser le vice jusqu'à dire, bah, finalement, elle est dans le système, hein, le fameux système que critiquait son père et qu'elle représente, puisque finalement, elle est une justiciable politique comme les autres, avec sa petite condamnation et qui fait son petit tour d'état de droit au moment où il lui reste plus que ça pour essayer de sauver son portefeuille.
Eh oui, c'est toute la question. Alors, l'ami politiste Alexandre Désert a fait un très chouette bouquin pour montrer comment toute l'histoire du Front National, je fais exprès de dire Front National par Rassemblement National, c'était un balancement permanent entre démarcation du système, intégration au système. Désert avait très bien montré ça. Cette question-là, on la retrouve ici. Elle demeure la candidate qui peut dire qu'elle est anti-système à ses ouailles par les valeurs qu'elle porte, le volontarisme nationaliste. La question de la préférence nationale, bien évidemment. Elle conserve cette charge subversive. Par contre, effectivement, ces proclamations de foi républicaine qui butaient un certain nombre de fois sur son mépris pour les institutions républicaines, dont celle de la justice, là, elle s'en est accommodée. Bon, si tu te mets à sa place, pour 50% plus une voix, ce n'est pas la pire des stratégies, puisque tu rassembles à la fois ton camp anti-système et que là, pour de vrai, tu donnes des marques et des références, effectivement, aux autres. C'est pas négatif, surtout que vraiment, cette question de la justice, il ne faut pas oublier, dans l'histoire, quand on parle de la passion égalitaire des Français, de l'égalité comme une passion française, c'est une formule très très classique dans le débat intellectuel, c'est pas l'égalité sociale, c'est pas l'égalité économique à laquelle on fait référence, c'est l'égalité juridique. Et c'est vrai que ces derniers mois, on a eu de... Marine Le Pen et ses soutiens, Nicolas Sarkozy, ses soutiens, etc., etc., j'en oublie sans doute dans toutes les affaires qu'il peut y avoir, des critiques permanentes de la justice, là, elle a donné l'impression de plus s'y soumettre. Et en janvier, quand elle aura la Cour de casse, le chemin pour attaquer la Cour de cassation en janvier paraît délicat quand même.
Tu parles d'affaires. Libération a révélé l'autre jour que Bardella pouvait aussi, enfin il y a Libération et Mediapart faisait l'objet d'une enquête parce qu'il a pas tout déclaré au fisc. Il y a aussi à nouveau à Bruxelles de l'argent qui transiterait un peu facilement dans ce que tu appelais tout à l'heure la good connection. Est-ce que toi tu penses que l'électorat du RN à un moment donné va être sensible à ces questions-là ou il s'en fout éperdument?
Pour l'instant...
La question de la probité, si tu veux.
Il s'en est toujours foutu éperdument. Ça fait partie de son rapport un peu charnel peut-être au Le Pen et au parti. Il y avait eu un scandale financier très important qui avait éclaboussé le Parti Socialiste à la fin des années 80, début des années 90, ça avait traîné plusieurs années, et qui est considéré comme ayant pas mal joué dans la débandade que se prend le Parti Socialiste.
L'affaire Urba, c'est ça ?
Les années 90, faisant la deuxième cohabitation. À ce moment-là, Laurent Fabius avait une formule, dont je ne me rappelle plus précisément, mais où il disait en fait, il y a un truc avec les affaires, quand nous on a des affaires, les gens de gauche, on se prend une tannée aux élections derrière parce que nos électeurs nous punissent, et c'est pas pareil pour la droite. Et il a dit c'est comme ça, notre électorat est beaucoup plus sensible à la question de la morale publique. Alors, j'ai cité Laurent Fabius, je suis chez toi, je vais continuer avec François Mitterrand, l'extrême droite c'est encore la droite. Cette question-là, on peut se demander si c'est toujours vrai ce que disait Fabius, mais on a vu l'affaire Fillon, on a vu l'électorat de droite très troublé par exemple. Par contre, en ce qui concerne l'électorat d'extrême droite, il y a Un désintérêt complet. Il y a même un désintérêt encore plus grand, tu viens de citer Libé. J'ai regardé tout à l'heure, moi aussi, Libé, fidèle abonné que je suis.
Voilà, tu as parlé de Libération et tout d'un coup, tu as mis quelque chose devant ton micro. On ne t'entend plus.
De quoi ?
Ah, c'est bon.
Pardon, j'ai eu un coup en même temps, j'ai appelé. Les reporters de Libé en même temps, sur le Tour de France, alors qu'on est aujourd'hui, bien évidemment, sur le jour du verdict que tout le monde attend depuis un an sur Marine Le Pen, et les journalistes de Libé de raconter qu'ils discutent politique avec des spectateurs qui leur disent que tous les hommes politiques sont pourris, sauf le Rassemblement National. C'est aujourd'hui qu'il y a le verdict, on est sur une affaire à 3 millions d'euros et...
4 millions 4, je sais que tu minimises, mais 4 millions 4.
4 millions de tête. Non, celle d'aujourd'hui, c'était 3 millions, non ?
Non, 4 millions 4.
Bon, j'échoue. Et puis, je ne sais pas des sommes auxquelles je suis habitué.
Marine Le Pen condamnée, sur la route du Tour de France, on vote RN, peu importe qui est candidat.
Voilà, totalement. Et des gens qui vont te dire que tout le monde est pourri, sauf cela. Ou bien ça va servir, on va être sur un discours, qui est un discours, alors moi je suis dans un département où le nombre de mises en examen et de condamnations est assez classique, dans la vie politique, on va te dire, bon, bah, c'est chacun son tour de taper dans la caisse, et puis c'est pas si grave que ça, quoi.
Alors,
il n'y a pas une demande éthique formidable aujourd'hui.
4 millions 4 au total et 2,8 en fait qui n'ont pas été remboursés. Donc on avait un peu tous les deux raison. Le chat se demande ce que Bolloré va pouvoir penser de tout ça. Tu sais que Bolloré avait plutôt tendance à pousser Bardella, en tout cas c'est ce qu'on sentait, parce que Bardella c'était le candidat de l'Union des droites. Le Pen Marine, elle est pas vraiment là-dedans, même si on peut imaginer que dans l'entre-deux-tours, elle pourrait jouer cette carte-là. Qu'est-ce que tu penses de cette réflexion du chat autour de Bolloré, autour de la caste médiatique, pour parler comme le père?
Alors, d'abord, le chat, sur le coup, a tout à fait raison, je crois, parce que il y a un truc sur l'influence de Bolloré, comme les gens qui sont sur le chat lisent peut-être pas forcément les bouquins d'extrême droite. Il faut bien voir, le dernier bouquin d'Éric Zemmour est une ode au catholicisme français, et le bouquin qu'a sorti Marion Maréchal-Le Pen commence par un chapitre assez étonnant où elle parle de miracle contre un accident qu'elle a eu, fort heureusement ça s'est bien fini, mais où elle le prend d'une manière totalement religieuse comme un miracle, c'est-à-dire d'un coup d'un seul, des dévotions assez incroyable au catholicisme. Il y a un catholicisme nationalisé, un catholicisme identitaire, bon, qui ressemble tout simplement à des gestes de soumission à Vincent Bolloré. Une façon de lui dire, tu sais, on est vraiment d'accord avec toi, on déconne pas, on est sur ta ligne, soutiens-nous. Aujourd'hui, il faut se soumettre, manifestement, pour un certain nombre de gens, à Bolloré. Marine Le Pen, elle a plus d'épaisseur que ça. Il faut lui reconnaître, elle a un capital personnel, elle n'a pas à se soumettre directement. Il faut composer avec elle. Elle pèse, je veux dire, la dernière présidentielle, elle pèse 42% des voix. Hein. Tu as un rapport de force à 42%. Mais je te disais tout à l'heure, quand elle parle de Gulliver, quand elle fait cette métaphore, je ne suis pas bien persuadé que tous les téléspectateurs de
TF1
étaient en train de compulser leur Rabelais juste avant l'interview, tu vois. Et Marine Le Pen, c'est pas Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, à un JT, il pouvait te sortir une locution latine et une référence à un fait de l'histoire de France du XIVe siècle, il trouvait ça cool, ça lui posait pas de questions. C'est pas le fond naturel de Marine Le Pen de partir sur les métaphores, et sur les métaphores littéraires. On peut donc penser qu'elle l'a préparé, sa métaphore. Et cette métaphore, elle dit une seule chose, c'est qu'elle est moins libérale, peut-être, ce soir qu'avant-hier, en bonne clarté, qu'elle va devoir mettre un petit peu d'eau dans son vin. Mais en même temps, tout démontre aujourd'hui que dans l'électorat des droites, si on veut une convergence, Marine Le Pen est trop interventionniste économiquement. C'est comme ça que Nicolas Sarkozy l'avait tapé en 2015 avec succès et que ça avait contribué à sa perte des seconds tours des élections régionales avec à ce moment-là une bonne montée au filet des sarkozistes. Donc, il est tout à fait possible que chacun doit faire avec l'autre pour arriver tout simplement à une victoire majoritaire. Une victoire majoritaire entre des forces politiques, ça veut dire qu'il y a des compromis. Ça n'existe pas. Penser qu'on va se présenter à une élection présidentielle, gagner un second tour à 50% plus une voix, sans faire des compromis avec les forces qu'il y a autour de soi, c'est pas compliqué, il n'y en a aucun exemple. C'est un acte de foi, c'est un acte de religion, c'est pas un acte politique. Marine Le Pen et Vincent Bolloré font de la politique, donc ils vont devoir faire l'un avec l'autre et mettre chacun un peu d'eau dans leur vin.
Erastodes te dit dans le chat que tu te trompes, c'est bien mal nous connaître. On lit tous les bouquins d'extrême droite avec dévotion. Hein, fais tout de même attention. Peut-être une autre question à propos de Le Pen. Est-ce que finalement cette décision, cette défiance, toi tu dis qu'elle joue l'état de droit, en tout cas, voilà, sa décision, est-ce que ça veut dire que le RN, c'est comme le FN, ça ne peut être que Le Pen? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi?
Le Rassemblement national, c'est le Front national. Il n'y a qu'une lettre qui change. Les congrès du Rassemblement national sont numérotés à la suite des congrès du Front national. Le cœur du programme du Front national, c'est la préférence nationale. Le cœur du programme du RN, c'est la préférence nationale. Et ensuite, tout tourne. Une fois de plus, Jean-Marie Le Pen, dans les années 80, est capable de défendre une monnaie européenne commune, une défense européenne commune, et parle de libéraliser l'économie. Il va aller vers des positions beaucoup plus protectionnistes et souverainistes au fur et à mesure du temps dans les années 90. Et puis Marine Le Pen également va faire des allées, des retours sur plusieurs points idéologiques. Tout peut changer au FN, au RN. C'est extrêmement plastique comme programme, sauf la préférence nationale. Le RN ne sera pas le Front National. Le jour où le RN dira cette question de la préférence nationale, de faire un référendum qui viole en plus la Constitution pour l'imposer, bon, tout ça c'est des conneries, on respecte l'état de droit jusqu'au bout, on ne le fait pas. Là, on pourra dire ok, d'accord les gars, là effectivement vous avez fabriqué quelque chose d'autre, peut-être nationaliste, tout ce que vous voulez, hein, je sais pas, mais vous avez fait quelque chose d'autre que le FN. Pour l'instant, il faut vraiment être Luc Ferry sous acide pour voir une différence entre les deux.
Oh la vie, la vision d'horreur.
Pardon, ça
fait chaud, je sous acide. Et est-ce que l'organisation... Oui, pardon, vas-y, continue.
La question du charisme de Le Pen, tant juste une chose, elle est fondamentale. Alors, le charisme, en histoire, Yann Kershaw, par exemple, a beaucoup travaillé là-dessus. Le charisme, c'est une production, hein, ça n'existe pas, le pouvoir charismatique, démoniaque, etc. C'est une production avec un appareil de propagande, etc. Mais il faut quand même avoir du bon matériel à la base, si possible. Les Le Pen sont arrivés à faire des choses complètement dingues. Il faut se rendre compte. Les extrêmes droites en France, dès l'entre-deux-guerres, c'est une kyrielle de groupuscules totalement impuissants. C'est pour ça qu'il y a un premier Front National créé en 1934 et qu'en 1972, on reprend ce nom de Front National. C'est la stratégie du compromis nationaliste d'avoir une plateforme commune au groupuscule. C'est même pas un parti seul en soi. C'est une plateforme commune au départ, le Front National, en 1934 comme en 1972. Là-dedans, Jean-Marie Le Pen, le premier, a su s'imposer comme l'arbitre. À dire à tous les courants, ok, vous avez là, vous avez le droit d'exister, mais il y a un arbitre, il y a un boss qui tranche, et ce boss, c'est moi. Il y a eu une scission au Front National très importante en 99. À partir de là, on laisse tomber les équilibres entre les chapelles, c'est juste la soumission à la présidence. Et mais Marine Le Pen, elle a récupéré là-dessus, il faut le reconnaître, être de bonne foi, le talent de son père d'être l'arbitre, de dire quand tout le monde s'est exprimé, quand vous êtes tous engueulés, effectivement, il y a quelqu'un qui tranche et c'est moi. Et ça, c'est un apport fondamental du Front National, tant et si bien que quand tu regardes les transformations historiques des extrêmes droites, à partir des années 80, on va se mettre à parler de lepénisme, mais jusqu'aux années 80, je disais, c'est une kyrielle de groupuscules, mais c'est une kyrielle de groupuscules avec une kyrielle de courant. Un fasciste tendance Bucard, c'est pas un fasciste tendance DA, qui est pas un fasciste tendance Doriot, un national catholique, c'est pas un maurassien, etc., etc. Et le lepénisme va aller arriver à recouvrir tout ça. À chaque fois que quelqu'un a dit le problème du Front National, Rassemblement National, c'est Le Pen. C'est lui, elle, qui est un mauvais candidat. Et qu'il a essayé de faire autre chose. Il y a eu des scissions, des trucs qui s'appelaient Espace Nouveau, il y a un parti concurrentiel, Parti des Forces Nouvelles, c'était les années 70-80. Mais tout ça, aujourd'hui, il y a les Patriotes de Philippot qui a ouvert sa propre boutique. Bah, à chaque fois qu'on dit, on va faire du lepénisme sans Le Pen, seul le boulet, on va gagner parce qu'on est tellement malin, les mecs qui sont tellement malins se plantent. Parce que, quoi qu'on veuille, c'est la question de quand, à gauche, on va aller critiquer les Le Pen en disant, ouais, mais c'est des millionnaires. Ou maintenant, Jordan Bardella, c'est un millionnaire. Ouais. Bien sûr, au niveau des revenus. Mais ils ont une fibre populaire, qui est une fibre esthétique, une fibre lexicale, une façon de s'exprimer, une façon de se diriger, qu'on voit aussi. Moi, j'ai vu Marine Le Pen à des fan meetings du FN papoter avec des gens du mouvement prolétariat en étant extrêmement cool, extrêmement sympathique avec eux, comme sans doute bien des élus, je suis désolé de le dire, de gauche radicale, écologiste, tout ce que tu veux, auraient peut-être eu plus de mal. Mais cette fibre-là, c'est pas une question économique, c'est une question de fibre, effectivement.
Oui.
Quand Jean-Marie Le Pen disait « je suis de la droite nationale sociale et populaire », sa fille lui a repris la formule, elle enlève juste le mot « droite » d'un présidentiel, elle dit un projet, qu'elle a un projet national, social et populaire. C'est une formule de son père. Cette dimension-là fait que les Le Pen restent fondamentaux, et le jour où Marine Le Pen devra filer le relais, de toute façon, qu'elle ait été présidente, qu'elle n'ait pas été présidente, c'est certain que alors, ça aura été préparé largement à l'avance. Mais c'est préparé largement à l'avance, puisque Bardella a été propulsé il y a maintenant des années, effectivement, comme le complément. Elle a parlé de couple, c'est surtout un complément.
Ils sont nationaux et socialistes, te dit Raptor. oui, mais tu crois vraiment que, par exemple, quand elle dit, comme elle l'a dit ce soir, nous, Jordan et moi, c'est la France, c'est les Français. Elle n'a pas dit les Français d'abord, mais ça nous dépasse, a-t-elle dit. Hein, bon, c'est quand même un discours qui est tellement rabâché, entendu. Comment expliques-tu que ça fonctionne encore?
Parce que, mon bon ami, ce sont des identités politiques et des cultures politiques. Si j'utilise des mots qui viennent de la culture politique du mouvement ouvrier depuis le 19e siècle, voire même, si je parle avec toi, du mouvement libertaire, si je te parle de Barcelone 36, tu vas pas te dire c'est rabattu, c'est rabâché, parce que ça va correspondre à ta culture politique. Et les cultures politiques, c'est des objets qui ont été travaillés en histoire politique, en particulier à partir des années 70-80, surtout enfin, à partir des années 70, et qui sont des objets très intéressants. On est à l'intérieur de systèmes avec des références, avec des symboles, avec des mots qui sont pour nous parfois fondamentaux et plus fondamentaux que les programmes même pour certains électeurs. C'est leur système de référentiel. Et ce discours-là, à toi, ne te parle pas du tout parce que tu y es très extérieur, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est aussi rassurant que pour un électeur de gauche, si on lui parle progrès, égalité, d'autres items qui vont être les items de sa culture politique.
Mon cher Nicolas, il est 21h39, je sais que tu as des ouvrages à écrire, on ne dira pas lesquels. D'ailleurs, tu en publies un. Et extrême danger, connaître et contrer l'extrême droite radicale avec la joyeuse bande de Street Press, Daphné Deschamps, Christophe Cécile Garnier, Nicolas Lebourg, c'est toi, Mathieu Mollard, le grand, et Johan Weiss, le petit. Voilà, c'est la maison Street Press. Peux-tu nous dire en deux mots de quoi parle cet ouvrage?
Alors, les journalistes de Street Press ont fait un super travail de compilation de toutes les structures d'extrême droite en France pour en faire la géographie qu'ils ont classée par courant. Donc, moi, très modestement, j'ai juste fait, ils m'ont demandé de faire les petites définitions en 3-4 pages. C'est quoi les nationalistes révolutionnaires? C'est quoi les nationaux catholiques? C'est quoi les maurrassiens, etc.? De faire des définitions historiques avec de l'évolution à travers le temps jusqu'à aujourd'hui au niveau des idées. Mais tout le boulot d'enquête, bien évidemment, moi, j'ai pas du tout touché. Faut pas piquer le travail des copains, c'est eux qui l'ont fait, je n'ai fait que les notices idéologiques, voilà.
Et est-ce que tu penses que cette littérature abondante et que nous lisons sur l'extrême droite, est-ce que tu penses qu'elle pèse dans les têtes des dirigeants du RN, où ils se contrefoutre complètement de ce qui peut être raconté, dit sur eux, analysé, notre petite émission ou les grandes émissions. Qu'est-ce qu'ils font de tout ça, en fait?
Ça dépend, parce que ça peut les agacer. Un ami spécialiste des extrêmes droites de demander à Florian Philippot, quand il venait de devenir numéro 2 du parti en 2012, ce qu'il pensait de la personnalité de François Duprat, s'il avait lu ses textes, etc. Et auprès de lui, Florian Philippot s'était agacé en disant « mais ça n'a pas d'importance, je m'en fiche complètement, pourquoi diable me parlez-vous du passé ainsi ?» Et je pense que de bonne foi, Florian Philippot n'avait pas lu les livres de François Duprat, mais qu'aussi, bien évidemment, il disait, ne me renvoyez pas au passé d'un type qui était fasciste et antisémite notoire. Je suis d'une autre génération, d'un autre siècle. Je ne veux pas qu'on me colle ce boulet-là. Donc, il y a un espèce de rejet, je crois, assez souvent, chez un certain nombre, un rejet parce qu'on veut tourner la page pour être enfin tranquille. Il y a quand même aussi souvent beaucoup d'appétence. Moi, je veux dire, je vais pas dire quels sont les cadres du FN ou du RN qui disent du bien de mes bouquins quand je discute avec eux, mais en tous les cas, avec assez de détails pour que je sache qu'ils les aient lus pour de vrai, quoi. Donc, il y a aussi un courant qui, mais là aussi, tu sais, c'est une question militante. Si tu discutes qu'un militant écolo, qu'un cadre écolo, par exemple, lise plein de bouquins sur l'écologie ou sur l'histoire de l'écologie, pas aberrant, hein, après tout.
Bien sûr.
Donc, il y a une appétence chez une partie d'entre eux. C'est la partie la plus intellectuelle.
Mais qu'est-ce qui peut peser pour enrayer la machine? C'est ça ma question. Parce que là, si c'est un plaisir intellectuel, bon, très bien. Mais qu'est-ce qui peut...
C'est pas les livres, c'est le marché politique. Les victoires d'extrême droite dans nos sociétés développées européennes sur les dernières décennies, qu'elles soient à l'échelle locale ou plus globale, mon téléphone à 5%, je te préviens,
oui.
Elles sont dues aux décompositions des autres.
On dirait le chiffre de la gauche, enfin de ta gauche à toi. Pardon.
C'est autant la décomposition des autres offres politiques que leur force à eux qui comptent. Donc la question, c'est la question de la structuration du reste du marché politique. La structuration du marché politique sans faire les erreurs que fit justement le Front National dans les années 2010, qui est de croire que ça consiste à gagner un premier tour. Une élection en France, hormis des européennes, ça se gagne à deux tours.
Mon cher Nicolas,
c'est plein de sous-entendus.
C'est plein de sous-entendus, nous avons bien compris les sous-entendus. Je voudrais te laisser avec tes 4%, on ne sait jamais, peut-être que tu es appelé par l'AFP ou Le Monde, mais c'est au poste et aux oppostiens et aux oppostiennes que tu as réservé tes décortiquages, comme dit le chat. Merci, merci beaucoup, beaucoup à toi Nicolas, c'est un plaisir. On se retrouve probablement, peut-être avant, mais je ne pense pas, mais assurément à la rentrée, pour Extrêmement Ramin, mais en studio quoi.
On se retrouve à la rentrée, mon très cher ami. Et puis, on se retrouve à la rentrée, très cher oppostien et oppostienne, comme tu dis.
Merci beaucoup. Et le chat te remercie. À très bientôt, mon cher Nicolas. Si tu savais, je passe mes journées avec tes proses diverses et variées dans les livres, les préfaces, les postfaces, les analyses, les reprises. Enfin bon, bref, bravo. Bravo à toi.
Tu leur as dit à tes oppostiens et oppostiennes que Marion Jacquet-Vaillant avait publié son bouquin sur les identitaires le 1er juillet. C'est chez Classique Garnier, ça coûte un bras. Ça, j'en suis désolé, mais c'est vachement bien. Pour ceux qui s'intéressent à la question des identitaires, ça vient de paraître. Donc, Marion Jacquet-Vaillant, les identitaires, le sous-titre, c'est Aux marges de la politique, si ma mémoire est bonne. Voilà, en lecture d'été sur les extrêmes droites radicales, c'est d'aventure.
Sur la plage. Attends, j'essaie de retrouver le bouquin. Je ne vois pas. Je vais le retrouver.
On invitera Marion à la rentrée.
Mais bien sûr, Marion qui est déjà venue à Extrême-Rama et on va la réinviter. Je vais essayer de trouver ça. Moi, je vais rester un petit peu avec les copains et les copines. Bonne soirée à toi, mon cher Nicolas. Et puis, ouais, comme tu dis, ouais.
Lâche-moi. Bonne soirée.
Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci ciao. Beaucoup. Voilà les amis, je vais essayer de retrouver le livre de Marion en attendant. Voilà, est-ce que vous avez envie de discuter deux minutes, de faire un peu. Ah bah bravo, voilà, oh là là, Uriel toujours là. Est-ce que vous voulez qu'on discute un petit peu? Voilà, c'est une émission qu'on a décidé au Déboté hier. J'avoue que moi je pense que vous aussi, je m'attendais pas à tel bordel. Voilà. Alors le bouquin de Marion, il est là. Les identitaires, enquête aux marges de la politique. Il est bien paru le 1er juillet. Voilà. Merci, c'était super. Trop bien, Nicolas Lebourg. Merci beaucoup. Les vrais savent. Merci beaucoup. Voilà, on fera peut-être d'autres petits lives impromptus dans l'été. Mais là, je peux vous dire qu'il faut que je trouve un ventilo parce que c'est infernal. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors oui, quelqu'un, oui, vous avez entendu le bruit du déboté, absolument. Quelqu'un m'a écrit un petit mail en me disant « Ah mais merde, il n'y a plus la matinale ». Non, les amis, on se repose un peu, surtout que la rentrée et l'année qui vient s'annonce quand même assez chaude. Donc c'est vrai qu'on ne fait pas la matinale. Peut-être qu'on va faire des petites émissions comme celle-ci. Voilà. Est-ce que je trouve que les juges ont été cléments concernant la condamnation de Marine Le Pen? Bah, les choses sont très simples. Vu les sommes. La clémence est de mise depuis le début. Je veux dire, je suis quand même désolé, mais il y a des gens qui font de la prison ferme parce qu'ils ont piqué un paquet de pâtes pour manger ou donner à manger à leurs enfants. Donc là, la clémence, elle est totale. Après, la décision de justice comme ça, elle est assez maligne. Je ne partage pas forcément, comment dirais-je, la bonhomie de Nicolas Lebourg. Je suis pas sûr. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté fuite en avant dans la décision de Marine Le Pen. Voilà. Donc, on verra ce que la Cour de cassation va dire. Là, la Cour d'appel, ce qui me chagrine dans la discussion de la Cour d'appel, c'est ce qu'on appelle les attendus, c'est-à-dire les explications. C'est cette idée de dire on a pris en compte le fait qu'il y avait une élection. Et là, alors oui, on pourrait dire, okay, si tu veux, ça c'est de la clémence. Et cette clémence, si elle est accordée à tous les justiciables, eh ben, je serais heureux. Mais c'est pas tout à fait le cas. Il y a des gens qui sont précisément condamnés parce que ils ne peuvent pas présenter voilà des garanties de représentation, etc. Donc le fait de ne pas être public les rend encore plus condamnables. Là, il y a un truc que je trouve un peu curieux. Je veux dire, ces gens-là ont été élus et c'est parce qu'ils ont été élus qu'ils ont piqué dans la caisse. Et en fait, on vient nous expliquer que c'est que finalement la justice devrait laisser les électeurs et les électrices juger. Bon, alors allons-y, faisons de la justice directe, faisons de la démocratie directe. Là, si tu veux, voilà, c'est le caractère un peu exceptionnel qui me fait dire oui, il y a de la clémence, il y a de la clémence, mais de la clémence qui peut être aussi un piège. Non, nous n'avons pas parlé du vote de l'Assemblée nationale sur la présomption de légitime défense. Voilà, on était sur Marine Le Pen, mais effectivement, ça a été voté et donc c'est définitif puisque ça avait été adopté en 2024, je crois, par le Sénat. Donc là, c'est l'Assemblée. Voilà, la présomption de légitime défense qui était une revendication des syndicats, notamment d'extrême droite, de la police. Voilà. Chers amis, il faut que j'aille me sustenter et m'aérer la tête. C'était un plaisir de vous retrouver comme ça dans la journée. J'espère que Uriel va bien. Comment va Uriel? On est revenu, vous avez vu, au live sur YouTube. Peut-être qu'on fera une émission là-dessus. Vous avez sans doute vu pendant un mois et demi de mi-mai. À fin juin, on avait arrêté les lives sur YouTube, sauf exception, notamment les matinales. C'était plutôt mieux, mais c'est pas super probant. Pour nous, c'est beaucoup de travail, notamment pour Uriel. Voilà. Un peu en manque de live, mais ça va. Et ben voilà, Uriel. Voilà. Sinon, j'ai un petit jeu. Je me disais qu'on pourrait peut-être faire un petit jeu. Et puis, profiter de ce petit jeu pour faire un peu de discussion comme ça entre postienne et opostien au coin du feu. Je ne sais pas si ça... je ne sais pas si ça vous dirait. Voilà, on pourrait faire ça le soir de temps en temps pour se retrouver. Moi aussi, je suis un peu en manque de live, Uriel B. Faut pas le dire, faut pas le dire. Voilà, les camarades, les amis, je vous rappelle que nous avons un site, que c'est ce site qui est le réceptacle de notre travail. Je vous le montre, il est ici. Voilà, opost.media. N'hésitez pas à ouvrir votre compte, n'hésitez pas à vous inscrire aux newsletters, n'hésitez pas. Alors bientôt, sachez que on va mettre en place quelque chose dont je rêve depuis 4 ans. Ce sera une newsletter qui vous enverra, sitôt le démarrage d'une émission, un petit email pour vous dire ça y est, on est en ligne. Voilà. Donc là, on passe pas par les algorithmes de tel ou tel qui favorise plus ou moins telle ou telle chaîne, etc. Même dans l'envoi des notifications, là, vous pourrez recevoir directement une petite notification. Voilà. Merci Narrative Boutique. Je suis sur YouTube et c'est bien. Merci beaucoup à toi, mon cher Loïc. Qu'est-ce qui se passe? La caméra, la caméra est morte. La caméra est morte. Salut les amis. Je sais pas, je crois que la caméra est trop chaud. Putain, c'est quoi ce bordel? Oh là là, ok, c'est le moment ou jamais de vous montrer cette page, la caméra a figé, putain. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à donner. Si vous donnez, c'est défiscalisé à hauteur de 66%. Si vous vous abonnez, eh bien pour nous, c'est un bonheur de savoir que vous attendez les émissions. Si vous vous abonnez, vous avez tout un tas d'avantages sur le site, en sachant que toutes les émissions sont toujours disponibles gracieusement, gratuitement pour tout le monde. L'idée, que ce soit abonné ou donateur, l'idée c'est la mutualisation, c'est-à-dire que ceux qui donnent, donnent pour ceux qui ne peuvent pas donner. Voilà. Merci à vous tous. J'ai peur que ça crache de partout. Il fait très chaud ici. Je vous embrasse, j'espère que vous allez bien. Et comptez sur nous pour que on marque à la culotte le Rassemblement National, les Zemmour et compagnie pendant toute la campagne. On a quelques idées, on en reparlera tranquillement cet été. Hop, les crédits, c'est ici, c'est à vous. Merci beaucoup.
Mes amis, nous sommes sur opost.fr. Abonnez-vous, les amis, c'est David Dufresne. Abonnez-vous, c'est important. Bon, la technique, c'est pas toujours ça. C'est artisanal, on est entre nous. C'est au poste, opost.fr.
Attention, oui. Ça va être dans le clip.
Postez-vous l'abonnement. Non, abonnez-vous au poste.
J'encourage, faites un don à au poste. Ah non, c'est là la caméra.
Adonnez-vous au poste. Adonnez-vous au poste.
Et faites des dons à au poste. J'espère que tout le monde dans le chat, que tout le monde ici fait des dons à au poste. Il faut donner
des
l'argent
dons,
pour
abonnez-vous.
Que ça existe.
Amis du café, amis de la police, adonnez-vous au poste.fr, au poste.fr. Adonnez-vous.
On vous remercie tous pour vos dons, c'est cool.
Désarmer les récits, c'est important. Ça passe par quoi? Ça passe par muscler les médias indépendants. Voilà, soutenir au poste.
Abonnez-vous. Donnez plein d'argent.
Il a raison, abonnez-vous à au poste et à Mediapart, ou deux.
Abonnez-vous.
N'oubliez pas, on a besoin de dons et de donateurs. Merci beaucoup.
Au poste.fr. Y'a pas mieux.
Ah, on se moque de moi là. Bompard soutient au poste, mais devant la mauvaise caméra. Celle-là, elle est bonne ou pas? Faites un don à au poste. Faut pas que c'est ça qui reste. Donc je disais, il faut bien que vous provoquiez du débat, il faut provoquer du sujet. Pour provoquer du sujet, il faut créer de la conflictualité.
Mais comment je vais rester indépendant si Bompard il demande aux gens de faire un don?
Oh, ouais, c'est vrai ça.
Tout ça n'existe que grâce à vous, parce qu'on est indépendant et on ne vit que grâce aux dons. Donc voilà. Merci.
Et abonnez-vous
au poste.fr, au poste.fr.
Bravo. Abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr.